Heureux, vous savez, je suis toujours très heureux de venir ici. C'est vrai, je suis vraiment heureux d'être avec mes frères et sœurs. Alléluia. Alors, je voudrais vous dire comment je suis venu au Seigneur. Mais avant de vous dire comment je suis venu au Seigneur, je voudrais vous dire déjà que bien des fois, je réfléchis à ce que Dieu a fait dans ma vie. Et à chaque fois que je réfléchis comment Dieu a fait pour m'amener à lui, eh bien, je reconnais que vraiment, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de lui, c'est vrai, je le reconnais. Parce qu'avec la vie que j'ai menée, eh bien, vraiment, je ne suis pas digne de lui. Mais à chaque fois, ça me parle, parce que je me dis toujours, c'est quand même une très grande grâce. Ça veut dire que si moi, j'ai pu venir au Seigneur avec la vie que j'ai menée, alors tout le monde peut y venir. Et il n'y a pas d'excuse. On peut tous venir au Seigneur. Alors d'abord, quand j'étais enfant, eh bien, j'étais pas croyant. J'étais pas dans une famille croyant. Mais ma maman, elle avait décidé quand même que je me fasse baptiser. Alors je m'étais fait baptiser catholique. J'avais 9 jours quand je me suis fait baptiser. Eh ben, je m'en souviens pas. Et puis. Après, eh bien, j'allais pas à la messe, j'allais à rien du tout. Mais c'était normal. Ma famille n'y allait pas, donc je n'y allais pas non plus. Et puis, on a habité à Besançon, dans un quartier, on appelle le Petit Chicago, c'est l'éclair soleil. Et puis, quand on a habité là, il y avait une dame qui était aveugle. Et elle était catholique. Et ma maman, eh bien, elle m'avait dit, eh ben, tu vas l'emmener à l'église. Alors, ben, je prenais cette dame, et puis elle me tenait le bras, et puis on allait ensemble à l'église. Elle m'emmenait à l'église. Donc moi, je me mettais là, et puis je partais dans mes pensées, mais je comprenais rien. Je vais même vous dire quelque chose. Quand il chantait à un moment donné, je me souviendrai toujours parce que bon, j'étais un enfant, et puis quand il disait « Seigneur, exauce-nous », moi ça me faisait peur, parce que je croyais que « exaucer », ça voulait dire « m'enlever les os ». Alors je disais, moi ça, je veux pas de ça, moi. Je comprenais pas ce que ça voulait dire, j'étais un enfant. Mais rien ne m'intéressait. Et puis, comme je venais à l'église donc régulièrement, eh bien on m'a demandé, donc ma maman, elle avait eu les religieuses, puisqu'à l'époque, les religieuses, elles venaient tous avec le foulard, avec l'habit de religieux. Et puis le curé, ils étaient venus voir ma maman, puis il avait dit, ben, comme il emmène tout le temps la dame, eh bien, ça serait bien qu'il soit servant. Alors, ils m'ont fait faire ma communion privée. Et puis, donc c'est ma petite communion, quoi. Ils m'ont fait faire ma communion. Je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Et puis, ils ont fait de moi un servant. Donc, ça fait que je servais à la messe, je devais sonner la cloche, je devais donner les choses. Mais je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Il n'y avait qu'une chose que j'avais compris. C'est qu'à la fin de la messe, quand le panier était passé, eh ben, je piquais des sous dedans. Parce que je n'étais pas chrétien. Et je ne comprenais vraiment pas. Hein. Moi, l'évangile, je n'avais rien compris. Et puis après, on m'a fait passer ma communion solennelle, comme il disait, la communion solennelle. Alors, j'ai passé ma communion solennelle. Mais je ne comprenais toujours pas. Et puis après, on m'a demandé de faire ma confirmation. Donc, j'ai fait ma confirmation. J'ai tout fait. Mais j'ai rien compris. Mais absolument rien compris. Je ne comprenais rien à l'évangile. Bon, je menais ma vie. Et c'est vrai que je me posais des questions depuis très jeune. Et à l'âge de 8 ans, eh bien, je me posais la question, je me disais, c'est quoi la vie? J'avais 8 ans, hein. Je me disais, c'est quoi la vie? Et puis dans ma tête, je me suis dit, la vie, en fait, c'est un rêve. Il y a quelqu'un qui est en train de me rêver. Et puis quand il va se réveiller, je meurs. Et quand à l'école, ils ont entendu que j'ai dit ça, alors ils m'ont envoyé voir une dame, une psychologue, qui m'a demandé de dessiner des arbres, qui m'a demandé de parler de ma famille. Ils ne comprenaient pas que je me posais des questions comme ça, j'étais si jeune. Et Je croyais pas en Dieu, je savais pas. Je savais même pas qu'il y avait un Dieu qui existait. Mais bon, c'était comme ça. Et déjà dans ces âges-là, eh bien, je faisais déjà des mauvais coups. Il y avait une maison qui était derrière chez moi. Donc, on habitait dans un immeuble. Et il y avait une maison. Et puis, j'avais monté le chéneau. Le chéneau, quoi. J'étais monté sur le toit, j'avais enlevé les tuiles pour aller voler dans la maison. J'avais des drôles d'idées, mais c'était comme ça. Je vivais comme ça. Et puis, quand on fait n'importe quoi, eh bien, on finit toujours par se faire attraper, quoi. Et je me suis fait attraper plusieurs fois pour des vols, pour plein de choses comme ça. Je volais dans les magasins, je volais partout. C'était pas une maladie, hein. C'est un péché. Mais je ne savais pas. Et puis, à l'âge de 11 ans, j'ai fini en maison de correction. Donc, je suis arrivé. Centre spécialisé de rééducation à Fresnes-le-Château. Et je suis arrivé là-bas. On m'a redressé, comme ils disaient. Hein. Donc, on se ramassait des coups. Et puis, mais bon. Là, quand même, on nous poussait à des choses. Ben, on nous poussait à prier, puisqu'il y avait des religieuses qui étaient là. Alors, on nous poussait à prier. Moi, je répétais juste ce qu'on m'apprenait, quoi. Fallait connaître des choses par cœur, donc j'apprenais les choses par cœur. Donc, je connaissais les prières qu'on me donnait de faire. Mais à un moment donné, j'ai fait une expérience. C'est-à-dire que donc j'avais été enfermé, c'était par le juge des enfants, et je n'avais pas le droit d'aller voir ma mère. Et j'avais prié, et j'ai dit, si jamais tu m'entends Dieu, et que tu me permets d'aller voir ma maman pour Noël, eh ben j'irai à la messe de minuit. C'est bizarre, hein ? Mais bon, je connaissais que ça. Alors, eh bien le jour de Noël, les religieuses elles sont venues me voir, elles m'ont dit, on ne sait pas, on a eu un coup de téléphone, tu dois aller prendre le bus parce que tu vas passer Noël avec ta maman. Et quand je suis arrivé chez ma maman ne m'attendait pas du tout. En fait, personne n'était au courant. Et je suis arrivé chez ma maman, et ce soir-là, j'ai dit à ma maman, eh ben ce soir, je vais à la messe de minuit. Et puis, l'homme avec qui ma mère, elle vivait, ici opposé. Et comme j'étais un enfant, je n'ai pas su lui résister. Alors, du coup, j'y suis pas allé. Mais je voulais y aller. Mais ça avait parlé à mon cœur, quoi. Je savais qu'il y avait quand même quelque chose. Et puis, voyez, Dieu y parle à tout le monde. Et souvent, on n'y prend point garde. Et un soir, où je m'étais mis à croire à la religion qu'on m'avait enseignée, eh bien, je faisais un chapelet, et c'est long un chapelet, hein. Je faisais un chapelet, à genoux au pied de mon lit, et puis le Seigneur ce jour-là m'a parlé. Ce jour-là, le Seigneur m'a parlé. Et voyez-vous, je n'ai pas compris. C'est-à-dire, il m'a parlé, je savais que Dieu me parlait, mais je n'ai pas compris. Et pourtant, il m'avait dit que le monde était perdu. Il m'avait dit qu'on était à la fin des temps. Et pourtant, jamais personne ne m'en avait parlé. Mais je n'ai pas compris. Et puis, j'ai continué ma vie. J'ai continué ma vie dans la folie, dans la bagarre. Et puis, à l'âge de 16 ans, je n'avais pas tout à fait 16 ans, eh bien, le directeur de la maison de correction, il m'a dit, on ne veut plus de toi ici. Parce que je faisais tellement le cirque, il m'a dit, on ne veut plus de toi. Alors, ce que tu vas faire, c'est, tu vas aller chercher un travail. Et puis, nous, on fera ce qui est nécessaire pour que tu n'aies plus à revenir. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai cherché un travail. Donc, j'ai cherché une formation. J'ai fait apprenti boulanger. Et puis, le directeur m'a dit, je ne te laisse pas un an avant que tu sois en prison. Et effectivement, moins d'un an après, j'étais en prison. Donc, c'était une drôle de vie que je menais, mais c'était ma vie, quoi. C'était ma vie. J'étais comme ça à l'âge de 11 ans. Donc, en maison de correction, j'avais commencé à me droguer. Avec des cachets, avec, enfin, toutes sortes de choses. Et puis, je pensais que c'était ça, la vie. Et puis, quand je suis sorti de maison de correction, ben, j'ai commencé à vendre. J'ai commencé à vendre de la drogue. Et puis, j'y vivais comme ça. Et vraiment, j'avais l'impression que c'était bien. Et puis après, une fois que je suis sorti de maison de correction, donc j'ai travaillé et après je me suis retrouvé en prison. Et en prison, j'ai rencontré des gens qui m'ont proposé des sales coups, quoi, pour que quand je sors, eh bien qu'on se retrouve et puis qu'on fasse des choses ensemble. Et effectivement, après, ben, j'ai continué dans la drogue, j'ai continué dans le vol, et puis dans toutes sortes de choses comme ça. Et il y avait une bande de Paris qui descendait à Besançon toutes les semaines, et puis ils m'amenaient du cannabis et de l'héroïne, et je vendais le cannabis pour me payer l'héroïne. Et puis il y avait une bande de Lyon qui montait à Besançon, et puis il y avait un jeune, et lui il vendait la drogue, et moi je devais faire son garde du corps, et puis en échange, ben, il me donnait la drogue, et je vivais comme ça. Et plusieurs fois j'ai failli me retrouver dans des situations où j'aurais pu mourir. Mais ça m'était égal. Vraiment, ça m'était égal. En fait, aujourd'hui, je peux mettre des mots, mais à l'époque, je n'étais pas capable de mettre des mots. Mais je me disais que la vie, elle ne servait à rien. D'ailleurs, un jour, j'avais dit à ma maman, quand ma maman, elle me parlait, puis elle me disait, mais Michel, arrête de te droguer, tu vas mourir avec ça. Puis je disais, mais maman, faut bien mourir de quelque chose. Que je meure de ça ou de n'importe quoi d'autre, c'est pareil. Tu traverses la route, une voiture te rentre dedans, t'es mort. Tu descends les escaliers, tu glisses, tu peux tomber et mourir. Tu peux mourir n'importe quand, donc. Je vis ma vie. Et des fois, j'étais tellement drogué, et même une fois, j'étais dans un état tellement second, que ma maman, elle est venue à la porte de chez moi, et j'ai même pas reconnu ma maman. Elle était devant moi, et je savais même pas que c'était ma maman. Parce que j'étais dans des états terribles. Et je me posais beaucoup de questions sur la vie. Et j'essayais de discuter avec les gens. Alors j'aimais bien fréquenter les gens âgés. Parce que je me disais, avec l'âge, ils ont trouvé des choses, ils vont pouvoir me les expliquer. Et quand je commençais à parler avec eux, et que je parlais du sens de la vie, je parlais de la mort. Et là, ils me disaient, arrête. C'est très angoissant, tes discours. Et ils ne voulaient plus parler avec moi. Et je ne comprenais pas. Dans mon cœur, je ne comprenais pas pourquoi ils ne voulaient pas aborder ces choses-là. Et je ne comprenais pas. Et même un soir, j'avais pris le taxi, parce que je prenais le taxi vers 3-4 heures du matin pour rentrer à la maison. Et puis, j'avais dit au chauffeur de taxi, j'avais dit, mais ça ne vous embête pas de savoir qu'un jour vous allez mourir? Puis le gars, il était surpris de la question, quoi. Et puis je lui avais demandé quel était le sens de la vie pour lui. Et puis il a essayé de se raccrocher en disant, ben, c'est dans mes enfants que je vais vivre, tout ça. J'ai dit, mais ça ne tient pas debout. J'ai dit, mais monsieur, vous êtes mort. Et il ne savait pas quoi me dire. Et moi, j'étais tellement triste, j'étais tellement mal, que j'en ai même pleuré. Et je suis descendu du taxi, et puis bon, je me suis repris, quoi, et puis j'ai continué ma vie, quoi. Et puis, j'ai passé mon permis de conduire, donc à 18 ans, j'ai passé mon permis de conduire. J'avais une saisie, la justice avait fait une saisie sur mon compte en banque, et moi, comme je ne voulais pas que la justice puisse prendre mon argent, j'avais tout enlevé mon argent. Et puis, je l'ai utilisé pour me payer mon permis de conduire. Et vous voyez comme c'est bizarre. Eh bien, le Seigneur, il m'a parlé. Et quand j'ai passé mon permis de conduire, le moniteur de l'auto-école, il m'a dit, « Toi, t'as un bon, tu conduis bien. n'y a pas de problème. Du premier coup, tu vas la voir, c'est nickel. Et puis, j'étais content, hein. Puis à ce moment-là, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, toi, tu es un orgueilleux et tu ne l'auras pas. Et je vous garantis que c'est vrai. Dieu m'a vraiment dit ça. Il m'a dit, tu es un orgueilleux et tu ne l'auras pas. Et je ne l'ai pas eu. Il a fallu que je m'y reprenne en deux fois. Mais je savais que Dieu m'avait parlé. Et je savais que c'était lui. Mais je ne comprenais pas ce qu'il voulait. Je ne comprenais pas ce qu'il attendait de moi. Je ne comprenais rien. Et puis, j'ai continué ma vie dans la drogue, dans la folie, dans toutes ces choses. Et puis, un beau jour, j'ai fait un sale coup avec un gars. On volait dans les trains, en fait. Et puis, lui, s'est fait arrêter par la police et il a fait de la prison. Et quand il est sorti de prison, il a pris une guitare et il est allé au milieu de la rue et puis chanter des chants chrétiens. Moi, je suis allé le voir. Je lui ai dit, mais t'as un problème, t'as perdu la tête. Arrête. Puis je lui disais, mais tu fais honte à tout le monde, là. Je ne savais pas. Et puis, j'ai arrêté de lui parler. Parce que je me suis dit, ah non, je ne peux pas. Les autres, ils me voient parler avec un gars comme ça. C'était mon orgueil, mais je ne m'en rendais pas compte. Et puis après, j'ai rencontré d'autres gens qui, une fois, j'étais parti en Hollande, et puis j'étais parti en stop, et j'ai rencontré deux garçons, et ils m'ont parlé de Jésus. Mais moi, je n'ai pas compris. Moi, quand on me parlait de Jésus, la seule chose que je connaissais, c'était la religion catholique. D'ailleurs, je ne savais même pas qu'il y avait d'autres religions. J'avais jamais entendu parler d'autres, ni catholiques, ni orthodoxes, ni pentecôtistes, ni rien du tout, même pas musulmans. Je ne savais même pas que ça existait, musulmans. Pour vous dire, moi, je ne connaissais rien. Et eux, ils m'ont parlé de Jésus. Et quand ils m'ont parlé de Jésus, j'ai dit, stop, on arrête la voiture là. Et on était sur l'autoroute, près de Compiègne. J'ai dit, stop, on arrête la voiture là, je descends tout de suite. Je ne supportais pas d'entendre parler de Jésus. Je ne supportais pas. Ils m'ont dit, on ne peut pas faire ça. Ils m'ont dit, on est obligé au moins d'aller à la prochaine sortie parce qu'on ne peut pas te laisser sur l'autoroute. J'ai dit, oui, mais taisez-vous. Je ne supportais pas. Ils m'ont sorti là. Ce jour-là, je me suis drogué plus que de raison. J'ai atterri à l'hôpital. Non pas que j'étais malade, mais j'étais tellement drogué que je parlais avec les poteaux, avec les arrêts de bus. Donc, ils ont envoyé la police. La police, elle a dit, on ne peut rien faire pour lui. Il faut l'emmener à l'hôpital. À l'hôpital, ils ont dit, bon, ben, on va voir ce qu'on peut faire avec ça, quoi. Et puis, j'ai signé une décharge, dès que j'ai repris mes esprits, quoi. Et j'ai signé une décharge, et puis je suis parti. Et le temps a passé, je continuais dans la drogue, tout ça, etc. Et puis, un beau jour, hein, où je me suis drogué plus que de raison, eh bien, je ne sais pas ce qui est arrivé. Mais ce que je sais, c'est que je me suis retrouvé allongé au bord d'une rivière, le Doubs à Besançon. Je me suis retrouvé allongé au bord de cette rivière-là. J'avais les vertèbres cervicales cassées, le cou cassé, mais je ne le savais pas. J'avais mal, énormément mal. Je croyais que j'avais un torticolis. Je me suis dit, j'étais tellement drogué, tellement pas dans mon état, que j'ai mal dormi, j'ai attrapé un torticolis. Et quand j'ai essayé de me lever, je voyais que je n'y arrivais pas. Alors j'ai mis mes jambes sous mon ventre, j'ai pris ma tête entre mes mains, et puis dans un effort, je me suis levé, et j'avais mal, je hurlais, j'avais mal, je pleurais, j'avais tellement mal. Et puis j'ai commencé à marcher dans la rue, quoi. Et il y a eu des gens qui m'ont vu, mais personne ne m'a aidé. Et puis il y avait des moments, je sentais que ça n'allait plus. Et quand je sentais que ça n'allait plus, j'allais à un poteau électrique, vous savez où il y a des petites marches, là. Je posais ma tête dedans, je prenais le poteau comme ça, et puis je tombais dans le coma. 10 minutes, un quart d'heure, 5 minutes, je ne sais pas. Je ne sais pas combien de temps. Et j'avais qu'une seule idée en tête. J'avais un rendez-vous chez le dentiste. Je me disais, il faut que j'aille chez le dentiste. Et ce jour-là, ben effectivement, quand je suis arrivé chez le dentiste, quand il a vu que, une fois que j'étais assis, je ne pouvais plus me relever, que je disais, aidez-moi à me relever. Et puis, ça lui a fait peur. Et ils m'ont envoyé au médecin juste à côté, il y avait un médecin juste à côté, et puis bon, enfin, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais au bout du compte, ils ont appelé les pompiers sont venus, Ils croyaient que j'étais sous, j'étais pas sous du tout. Je leur ai dit non, non, j'ai pas bu, rien. Et puis, ils m'ont dit, qu'est-ce que t'as? J'ai dit, ben, je sais pas, j'ai mal au cou. Et puis, ils m'ont mis sur une espèce de lit, quoi. Et puis, ils m'ont tout bloqué. Et puis, après, ils m'ont vissé des vis dans le crâne, avec un arceau, un câble, une poulie, et puis un contrepoids. Et puis, ils m'ont tiré comme ça pour me mettre en extension. Ils m'ont emmené à l'hôpital, je hurlais tellement j'avais mal. Et puis, à l'hôpital, ben, ils m'ont passé en urgence faire les radios, enfin tout ce qu'il y avait à faire, quoi. Et puis ils m'ont dit, vous avez échappé belle. Eh bien, voyez, moi, ça ne me faisait rien. Ça ne me faisait rien du tout. Ça m'était totalement indifférent. Je pensais même pas à ça. Bon, ben, il m'était arrivé ça, mais c'était tout. Ça ne me faisait rien du tout. Et puis bon, je suis resté plusieurs mois à l'hôpital. On m'a fait un plâtre, qu'on m'a mis. Enfin donc, déjà avant, on m'a opéré. On m'a mis un morceau d'os au niveau des cervicales pour me bloquer les trois premières cervicales avec un lassage. Enfin bon, je suis pas un spécialiste, mais voilà, on m'a pris un morceau d'os à la hanche. On me l'a mis dans le cou. Et puis, je suis resté comme ça. Et puis après, une fois qu'ils m'ont eu fait ça, ils m'ont fait un plâtre qui me prenait la tête, les épaules, le cou, le ventre, le dos. Et puis j'étais comme ça. Et puis je ne pouvais plus bouger, quoi. Et quand j'avais besoin de me retourner, ben, il fallait que je retourne tout le corps, quoi. Et puis, donc ils m'ont gardé à l'hôpital. Comme ça, j'ai fait en gros un an d'hôpital, quoi. Et puis après, ils m'ont envoyé dans une maison de repos parce que, bon, comme ils avaient bien vu que j'étais un drogué, puisque. Quand ils me donnaient des médicaments pour les douleurs, je les prenais, enfin je les mettais de côté, et puis quand j'estimais que j'avais une dose suffisante, je prenais tout en une fois. Et c'est parce que je voulais me droguer. Et puis autrement, toute la journée, ben, je hurlais dans l'hôpital pour qu'ils viennent m'injecter, me faire des injections en intraveineuse pour les douleurs, mais moi c'était surtout parce que je voulais du plaisir, quoi. Je voulais du plaisir. Et puis, quand ils m'ont envoyé après dans une maison de repos, eh bien, dans la maison de repos, ça pouvait pas aller, quoi. Je mettais de la musique satanique, hein. Moi, je mettais du AC/DC, je mettais ça fort en plus. Donc, ils ont dit, ça peut pas aller comme ça, quoi. Alors, j'ai dit, ben, je signe une décharge et je m'en vais. Alors, ils m'ont laissé partir, je suis parti avec un plâtre, comme ça. Et puis il fallait que je rentre à Besançon, j'étais à Quingé, une trentaine de kilomètres, quoi. Je ne sais plus exactement combien de kilomètres pour revenir à Besançon. Je suis revenu en stop. Je suis revenu en stop. Et puis j'ai continué mon trafic. J'avais beau être plâtré et tout. Je continuais mon trafic. Je continuais à me droguer, je continuais ma vie, quoi. Et je voyais pas ce que la vie pouvait m'apporter. Et puis un jour, j'ai rencontré un garçon qui me parlait de Jésus dans le bus. Et puis, comme je faisais un stage à FPA, et puis à l'époque, ben, j'étais quelqu'un. Je profitais, quoi. Je profitais de la société. Je savais que ça marchait, donc je le faisais. Puis comme on était payé calendaire, je venais travailler le vendredi. Donc le samedi j'étais payé, donc j'ai payé, donc du coup le vendredi j'étais payé, le samedi j'étais payé, le dimanche j'étais payé, et puis je venais le lundi. Comme ça j'étais payé 4 jours, et puis le reste du temps, ben, je venais pas au boulot. Mais à chaque fois que j'allais, eh ben, je voyais cet homme qui me parlait de Jésus. Et ça ne m'intéressait pas. Je voulais rien savoir. Alors ce que je faisais, ben, je prenais le suivant bus. Je préférais arriver en retard plutôt que d'entendre parler de Jésus. Et puis, la vie continuait, quoi. Hein. Puis un jour, j'ai rencontré enfin, j'ai rencontré deux garçons. C'était un jour où j'étais en manque, j'avais besoin d'héroïne. Et puis, j'en avais vraiment besoin. J'avais du cannabis, mais j'avais pas d'héroïne. Et moi, c'était de l'héroïne que j'avais besoin. Donc, je savais que j'étais en manque, il fallait que j'en prenne vite. Donc, j'ai fait ce que je ne faisais pas d'habitude, c'est-à-dire je suis allé dans un bar pour vendre du cannabis. Et j'ai vu deux gars, comme on dit, ils avaient la tête de l'emploi. Donc, je suis allé vers eux, je leur ai dit, vous en voulez? Ils m'ont dit, t'as quelque chose? J'ai dit, ben on sort. Et puis, je suis sorti du bar. Et puis, je leur ai vendu du cannabis. Et puis, quand ils ont vu que ça leur plaisait, que ça, ils m'ont dit, est-ce qu'on peut se revoir? J'ai dit, oui, mais pas ici. Alors, ils m'ont dit, ben, je peux t'emmener chez quelqu'un, parce que toutes les semaines, on va chez cette personne-là, parce qu'on rentre dans notre village. Et puis, j'ai dit, bon, ben, d'accord. Et puis, ils m'ont emmené donc chez une jeune fille, qui, elle, n'était pas dans la drogue. Elle avait une vie normale, elle travaillait, elle venait à l'église, voilà quoi. Mais bon, je ne savais pas tout ça, quoi. Et puis quand je suis venu, il y avait des posters au mur, des paysages, avec des versets bibliques. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, je suis tombé chez les fous, quoi. Je suis tombé chez les fous. Mais, comme les deux jeunes, ils m'achetaient la drogue, ça fait que tous les vendredis, je venais là et puis je vendais. Comme ça, je savais que, ben, au moins, j'avais assez d'argent pour pouvoir m'acheter pour le week-end, pour avoir ma drogue pour le week-end. Et puis, je venais. Et puis, à chaque fois que je venais, à chaque fois, elle me parlait de Jésus. Et puis ça, moi, je lui ai dit, mais écoute, c'est des conneries, quoi. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais à chaque fois, elle me parlait. Puis, je voulais pas être méchant, quoi. Mais bon, ça me gonflait, quoi. Ça me chauffait la tête, hein. J'avais envie de lui dire des trucs. Et puis un jour, elle m'a dit comme ça, elle m'a dit, ben, viens écouter, parce que moi, je ne sais plus quoi te dire, mais viens écouter, et puis là, tu vas voir, les gens, ils vont te dire des choses, et puis tu pourras discuter avec eux. Et puis à ce moment-là, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai dit, d'accord, je viens, j'écoute, mais après, tu m'en parles plus jamais. Elle m'a dit, d'accord. Et je suis venu à l'église, c'était un samedi. Je suis venu, c'était une réunion de jeunes, c'était rue Battant à Besançon, il y avait des chaises tout autour de la salle. Je suis venu, je me suis assis, là où il y avait de la place, il y a eu des chants, il y a eu des questions qui ont été posées, j'ai écouté. Bon, moi j'ai rien dit, j'ai écouté. Et quand ça a été terminé, quand je suis sorti de là, je me suis dit en mon cœur, je me suis dit ça, ça c'est des fanatiques. Mais ça c'est des fanatiques, et des vrais. Mais mon cœur il me disait, peut-être que c'est des fanatiques, mais ils ont dit la vérité. Et ça, je ne pouvais pas me l'enlever du cœur. J'arrivais pas à m'enlever de la chose du cœur. Alors, le lendemain, je suis venu à la réunion. Fallait que j'écoute. Alors je suis venu à la réunion, j'ai écouté, je m'étais mis tout au fond de la salle, puis j'écoutais. J'ai écouté toute la réunion. Et puis, je ne savais pas quoi penser, mais je savais que c'était la vérité qui était annoncée. Mais je ne peux pas vous dire pourquoi. Enfin, aujourd'hui, je pourrais le dire, mais je veux dire, à l'époque, j'étais incapable de dire pourquoi. Incapable de dire pourquoi. Mon cœur était travaillé. Et j'ai commencé à venir à toutes les réunions. Je venais régulièrement aux réunions. Et puis au bout d'un moment donné, eh bien, on a commencé à m'inviter à participer, quoi, à participer un petit peu. On m'a dit, bah tiens, si tu veux, on fait des jeux à Fontain, viens avec nous. Oh, j'ai dit, bon, allez. Puis j'ai commencé à aller à Fontain, donc. C'est après, à côté de Besançon, j'ai commencé à aller à Fontain, ils jouaient au football, alors j'ai joué un petit peu au football, il y en a qui jouaient au volley, j'ai joué un petit peu avec eux, enfin bon, j'ai joué. Et puis au bout de quelques semaines, il y avait quelque chose dans mon cœur, je me sentais triste, mais vraiment triste. Il faut dire que je faisais ma vie, je continuais toujours ma vie normalement, enfin, si on veut dire normalement, c'est-à-dire ma vie de drogué. C'est-à-dire, moi, je venais à l'église, il y avait des jeunes qui venaient, ou des moins jeunes qui venaient à l'église, ils se mettaient à côté de moi, ils me disaient, t'en as? Et puis, je sortais avec eux, j'allais dans le porche d'à côté, je leur vendais ce qu'ils avaient besoin, puis après, je rentrais. Alléluia! Merci Seigneur! Mais, j'avais rien compris. Moi, je ne voyais pas de mal. Moi, je me disais, je donne pas à des enfants, je donne qu'à des gens qui veulent. Enfin, j'avais toute ma justification. Je pensais que c'était bien. Mais à un moment donné, mon cœur, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et puis, un dimanche, je suis venu à l'église, j'ai écouté le message, j'ai écouté les chants, j'ai tout écouté. Et puis, arrivé à midi, j'avais le cœur triste, mais vraiment triste. Et puis là, j'ai dit à mon cœur, j'ai dit, bon, c'est fini, quoi, je ne reviens plus. Et puis à ce moment-là, il y a un frère qui est venu me voir, puis il m'a dit, reste avec nous pour manger. Ouais, j'ai dit, c'est bon. Il m'a dit, reste avec nous. Puis à mon cœur, je me suis dit, de toute façon, c'est la dernière fois que je le vois. Puis, il n'était pas méchant avec moi. À chaque fois, il me gardait une place, il était gentil avec moi. Alors, je me suis dit, allez, comme de toute façon, je sais que c'est la dernière fois, allez, pour lui faire plaisir, je vais manger avec eux. Alors, on a mangé ensemble. Puis, à la fin du repas, j'ai dit, bon, allez, salut, je m'en vais. Il m'a dit, tu ne vas pas t'en aller comme ça. Il y a la réunion de l'après-midi, d'habitude, tu restes. Reste. Mon cœur, je me suis dit encore la même chose. Je me suis dit, allez, je fais l'effort encore. J'y reste. Je suis resté. À la fin de la réunion, j'avais toujours le cœur triste. Mais vraiment triste. Hein. Puis je voulais m'en aller, quoi. Puis il m'a dit, viens avec nous à Fontaine. Ah, j'ai dit non. Il m'a dit, allez, viens. Allez, j'y vais. Je suis monté à Fontaine. On est arrivé, il jouait au volet. Ils ont dit, il y a besoin de quelqu'un. J'ai dit, je viens. Hop, je suis venu pour jouer au volet. Mais j'avais le cœur triste. Hein. Et puis, à ce moment-là, il y a un autre qui est venu. Puis il a dit, est-ce qu'il y a de la place au volet? J'ai dit, oui, tiens, prends ma place. Et puis tout le monde voyait bien que j'étais triste. Hein. Puis là, je suis rentré dans les bois. Et puis je me suis jeté à genoux. Puis j'ai dit, vraiment, j'ai dit de tout mon cœur. J'ai dit, je comprends pas, tu dis que tu donnes la paix. Tu dis que tu donnes la joie et moi je l'ai pas. Pourquoi? Vous savez, Dieu, quand on est sincère avec lui, il tarde pas à nous répondre. Il m'a dit, mais c'est parce que tu ne m'obéis pas. Et quand tu m'as eu dit ça, je savais tout. J'avais tout compris, tout ce qu'il voulait me dire à moi personnellement. À ce moment-là, je me suis levé, j'avais la joie dans mon cœur, mais vraiment la joie. Je suis sorti du bois en criant, je sais pourquoi, ça n'allait pas. Et puis il y a une sœur, la mamie maçon, qui est partie dans la gloire maintenant. Elle a dit comme ça, elle m'a dit, pourquoi? J'ai dit, parce que je n'obéissais pas. Puis elle a ri, puis, moi je l'ai dit à tout le monde, à quiconque voulait l'entendre. Et à partir de ce jour-là, ma vie, elle a changé. Je me suis débarrassé de ma drogue et puis j'ai commencé à marcher avec le Seigneur. Et puis Dieu m'a béni, il a fait beaucoup de choses pour moi. Donc il m'avait déjà guéri, j'avais eu les vertèbres cervicales cassées, il m'avait guéri. Et puis, je me souviens plus si c'était avant ou après, mais enfin, peu importe, il m'avait guéri. Et puis, il m'avait délivré de la drogue, délivré du tabac, délivré de la violence, de plein de choses, quoi. Dieu avait vraiment fait des choses extraordinaires pour moi. Et puis Dieu, il a voulu que je fasse des études. Moi, j'étais allé jusqu'en sixième transition. Aujourd'hui, on dit SECPA, CES ou SECPA, selon les années. Mais à mon époque, on disait sixième transition. C'était les gens, on ne savait pas quoi faire avec eux. Alors on les mettait là, parce qu'ils avaient l'âge pour être là. Donc on les mettait là, en attendant que les années passent, jusqu'à ce que les 16 ans soient là, et puis voilà quoi. Et on m'avait mis là, voilà quoi. Donc ça fait que je ne savais pas bien lire, je ne savais pas bien écrire. Enfin, quand je dis je ne savais pas bien lire... Je ne savais même pas lire du tout, parce que pour déchiffrer, je bégayais sur tous les mots. Enfin, il faut dire que quand je suis allé à l'école maternelle, je me sauvais. Quand je suis allé au CP, je me sauvais. Ou alors, je n'allais pas en cours. Je n'ai pas fait de CE1. j'ai pas fait de CE2, j'ai fait le CM2, et puis après la sixième. Donc c'est sûr qu'on a du mal à apprendre quand on a fait si peu d'école. Mais Dieu, lui, il voulait que je refasse des études. Mais bon, moi, j'avais pas vu ça comme ça, quoi. Il voulait juste me faire changer de boulot. En fait, Dieu m'avait béni, et puis il voulait me bénir encore. Et le premier boulot qu'il m'a trouvé, alors c'était un boulot comme soudeur. Bon, j'étais pas soudeur, hein. Bon, je connaissais de la soudure, mais j'étais pas soudeur. Mais quand je suis arrivé dans ce boulot-là, c'était de la soudure par point. Donc, il y avait juste à appuyer sur une pédale, à mettre les deux, et puis regarder que la soudure était bonne. Puis après, on mettait dans un sac les pièces qui étaient faites. Et puis, comme mon travail était terminé, ben, ce que je suis allé faire, ben, je suis allé voir le chef. Puis le chef, il m'a dit, ben, pour l'instant, il n'a rien pour moi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai parlé de Jésus aux gens. J'aurais parlé de Jésus, mais j'avais pas tout compris. Pardon. Mais j'avais pas tout compris. À la vérité, j'avais pas compris grand-chose. Mais bon, je leur ai parlé de Jésus. Et puis à ce moment-là, il y a le patron qui est arrivé. Puis quand le patron il est arrivé, il a dit, bon, je te paye pas pour faire le prédicateur, hein. Puis à ce moment-là, je l'ai regardé, je lui ai dit comme ça, j'ai dit, qu'est-ce que t'es pas content? Tu veux que je te claque ou quoi? J'ai dit, bon, allez, ça suffit, tu me fais ma paye, moi je m'en vais. Et puis, puis voilà, mon boulot s'arrêtait comme ça, quoi, hein. Et puis le soir, j'avais vu un frère, et puis il m'a dit, ça marche ton boulot? Je lui ai dit, oh, c'était un abruti, je suis parti. Il m'a dit, comment ça s'est passé? Je lui ai un peu raconté, quoi. Et puis je pensais qu'il allait m'approuver, quoi. Puis il m'a dit, je crains fort que ça va être difficile maintenant. Et puis dans mon cœur, je savais qu'il avait raison. Alors ce que j'ai décidé de faire, c'est de retourner au boulot. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis retourné au boulot. Je suis allé le voir, et puis le patron, il s'est enfermé dans sa boutique, quoi. Parce qu'il a cru que je venais le taper. Et puis je lui ai dit, non, je viens juste pour vous demander pardon. Alors il m'a dit, bon, ben d'accord. Je lui ai dit, vous me rembauchez? Il m'a dit, non. Il n'a pas voulu, quoi. Mais bon, c'était comme ça. Et puis après, ben, j'avais plus de boulot. Mais voyez, Dieu est bon. Parce que j'étais droit. Et Dieu a permis que la SMAC Assyroïde, c'est une entreprise, SMAC, vous verrez, des fois c'est un camion avec un rond rouge, il y a marqué SMAC dedans, et puis il y a plusieurs trucs dans. Mais moi c'était la SMAC Assyroïde. Eh bien le PDG de la SMAC Assyroïde m'a téléphoné. Je ne connaissais personne qui avait travaillé à la SMAC. Je ne connaissais personne qui travaillait à la SMAC. J'avais jamais entendu parler de la SMAC. Et je n'avais jamais postulé à la SMAC. Et je ne sais même pas comment il a eu mon numéro de téléphone. Et puis il m'a téléphoné. Puis il m'a dit, ben, j'aimerais vous entretenir pour le boulot. Et donc je suis allé chez lui. Et en plus, je lui avais dit, oui, mais alors à laquelle vous me demandez, ce n'est pas possible. Parce que moi, je ne suis disponible qu'à partir de 19h. Il m'a dit, bon, ben, pas de problème, à partir de 19h, je vous attends. Donc je suis allé, il m'a expliqué où c'était, je suis arrivé. On a eu un entretien à 19h, quoi, passé, même 19h passé. Puis il m'a dit, vous vous y connaissez en pliage de tôle? Ben, j'ai dit non. Il m'a demandé, vous vous y connaissez en soudure plomb? J'ai dit non. Il m'a dit, vous savez souder oxygène acétylène plomb? Ben, j'ai dit non. Enfin, à chaque fois qu'il m'a demandé quelque chose, c'était toujours non. Ah, il m'a dit, mais en fait, vous ne savez rien faire? J'ai dit oui. Et puis il m'a dit, bon, voilà ce que je vous propose. Je vous donne une formation. Je vous paye comme si vous aviez déjà le diplôme. Est-ce que ça vous va? J'ai dit, je ne sais pas, il faut que je réfléchisse. Et il m'a dit, je vous laisse 1 mois, ça vous va? J'ai dit, ça va. Et dans mon cœur, ça m'allait bien parce que je voulais faire une mission. Il y avait une mission, l'été était là, quoi. Je voulais faire une mission. Et donc j'ai pu faire la mission pendant l'été. Et puis je me suis présenté là-bas, donc en septembre. Et quand je suis arrivé au 1er septembre, c'est le PDG en personne qui m'a accueilli. Et quand le PDG m'a accueilli, eh ben, je ne l'ai même pas reconnu. Je ne savais même pas que c'était lui. Parce qu'il m'a dit, bon, ben, vous allez faire ça. J'ai dit, ah, moi, j'ai prévenu, hein, je ne sais rien faire. Hein. Il m'a dit, je sais, c'est moi que vous avez eu. J'ai dit, ah oui, ben, moi, je ne me rappelais même pas de lui. Hein. Et puis, il a dit au chef, bon, vous lui donnez une caisse à outils, tout l'outillage, vous lui donnez les chaussures de sécurité, vous lui donnez les vêtements de travail, vous lui donnez tout. Alors que dans la convention collective de l'entreprise, fallait travailler depuis un an chez eux pour pouvoir avoir la caisse à outils, 6 mois pour avoir le bleu de travail, et puis les chaussures de sécurité. Autrement, fallait qu'on se les amène nous-mêmes, quoi. Et moi, le premier jour, j'ai tout, mais je savais rien faire. Mais j'ai tout eu. Et puis les gars de l'entreprise, ils étaient convaincus que j'étais le copain du PDG. Et puis quand ils sont venus, moi, ils m'ont dit « Ah, mais tu connais bien monsieur Intel ?» J'ai dit « Non, je ne le connais pas. » Ouais, il dit « Tu rigoles, c'est lui qui t'accueille, t'as tout, tu le connais. » Je dis « Non, je l'ai vu qu'une seule fois, puis encore, je ne me rappelais pas de lui. » Et ils n'ont jamais voulu me croire. Ils n'ont jamais voulu me croire. Et puis Dieu a béni, et 3 ans après, j'étais chef d'atelier à la place du chef d'atelier. Dieu avait béni, j'étais chef d'atelier. Mais Dieu, il voulait que je fasse des études. Alors ben là, ça m'avait appris à recalculer des développements de troncs de cône, des pièces, des particulières, etc. Donc ça m'avait donné une vision de la 3D en quelque sorte, quoi. Hein. Donc j'arrivais à voir les choses en 3D, puis après les remettre à plat pour fabriquer les pièces, parce que Dieu avait permis que j'ai cette formation-là, etc. Et puis Dieu a continué son œuvre, parce que quand j'étais dans ce travail-là, eh bien, j'avais la conviction que je devais devenir électricien. Et j'avais la trouille de l'électricité, j'avais peur de l'électricité, moi ça me foutait la trouille, hein, l'électricité. Mais j'avais la conviction qu'il fallait que je devienne électricien. Alors, je suis devenu électricien. Donc, j'ai fait un stage à FPA. J'ai fait électricien d'équipement industriel. Et puis, quand je suis arrivé dans le stage, ben, j'avais affaire qu'à des électriciens. C'était tous des électriciens qui étaient là, mais qui n'avaient pas le diplôme. Et ils étaient juste venus pour le diplôme. Mais ils connaissaient déjà tous le métier. Mais moi, je ne connaissais pas. Et puis, pour preuve, j'avais levé la main, j'avais dit, s'il vous plaît, au prof. Puis j'avais dit, s'il vous plaît, une ampoule de 30 watts, ça fait combien en volts? Puis tout le monde a rigolé, parce que ça n'a rien à voir, mais je ne savais pas. Je ne comprenais même pas ce que je disais. Mais bon, c'était comme ça. Et Dieu, eh ben, il a permis que j'apprenne. À ce moment-là, ben, j'ai appris à faire des équations, parce que je ne savais pas ce que c'était qu'une équation. Je ne comprenais pas qu'on pouvait calculer avec des A, des B, des X, des Y. Je ne comprenais pas qu'on pouvait calculer avec ça. Et puis, j'ai eu un frère à l'Assemblée, il m'a dit, non, non, il ne faut pas que tu te dises que l'on calcule avec ça. On ne calcule pas. Dis-toi que c'est un jeu. Et tu as juste à apprendre les règles. Tu verras, c'est juste savoir dans quel sens tu mets les choses. J'ai appris la règle, puis j'ai dit, ah, mais c'est vrai, c'est un jeu. C'est comme un jeu. J'ai dit, ah ben c'est facile. Amen. Alléluia. Hein? J'ai dit, c'est facile les maths. C'est facile les maths. Et puis une fois que j'ai eu fait ça, donc je suis devenu électricien d'équipement industriel. Dieu a permis que je travaille pour plusieurs entreprises. Et puis Dieu a permis que je devienne chef de chantier. J'avais 10 ouvriers sous mes ordres, alors que je venais juste de sortir de l'école. Mais Dieu a béni et à Besançon, bah après j'étais connu comme étant un bon électricien. Et puis voilà, j'étais très demandé. Mais je sais pas, je sentais dans mon cœur que, en fait, c'était juste que un pas que je venais de faire et que Dieu voulait que je fasse plus encore. Mais bon, moi, je m'étais arrêté en 6e. Vous comprenez bien qu'en 6e, c'était un peu léger, quoi. Bon, c'est vrai que Dieu m'avait béni, mais pour aller plus loin, je ne savais pas trop comment ça allait se passer. Puis Dieu, il voulait que je passe un bac plus 2. Alors, j'ai demandé à faire un bac plus 2, hein, donc ce qu'on appelle un niveau 3, par la FPA. Et à la FPA, ils m'ont dit, écoutez, monsieur Vrard, on voudrait quand même vous dire, soyez raisonnable, vous vous rendez compte, vous avez fait 6e, et en plus, 6e transition. Et puis là, vous voulez faire un bac plus 2, vous vous rendez compte, c'est un grand écart que vous faites. Mais c'est impossible. Et puis, il m'avait dit, écoutez, puis alors moi j'avais dit, pour essayer de me défendre, j'avais dit, écoutez, mais mettez-moi à l'épreuve, vous verrez bien. Et puis il m'avait envoyé vers quelqu'un qui, il lui a dit qui j'étais, enfin, bref. Puis le gars, ben, il a dit, non, moi je ne veux pas prendre quelqu'un qui ne connaît rien, quoi. Et puis, ils m'ont dit, vous savez ce que c'est que... Qu'est-ce que c'est une fonction affine ? J'avais jamais entendu parler d'une fonction affine. Vous savez ce que c'est une intégrale ? J'avais jamais entendu parler d'une intégrale. Et puis toutes les choses qu'ils m'ont demandé, j'avais jamais entendu parler de ça. Je ne savais même pas ce que c'était. Je ne comprenais même pas ce qu'ils disaient. Et puis, ils m'ont humilié, mais humilié. J'avais 40 ans. Hein. J'en ai pleuré. Hein. J'en ai pleuré. Mais j'ai dit, Seigneur, tu m'as amené là. Je ne peux pas croire. Je ne peux pas croire que c'est juste pour l'humiliation que tu m'as amené là. Tu m'as amené là, tu as un plan. Alors, eh bien, j'ai dit, rappelez-vous que quand même, en informatique, c'est quand même moi qui viens vous dépanner. Ils m'ont dit, c'est vrai. Ben écoutez, on va vous envoyer à Strasbourg. Et puis à Strasbourg, on va vous donner un prof. Qui va évaluer vraiment ce que vous valez. Alors du coup, j'avais revu à la baisse, quoi. Je me suis dit, bon, bac plus 2, bon, ils ont peut-être raison, quoi. C'est peut-être un peu beaucoup. Bon, je vais me rabasser à bac, et puis on verra bien. Et puis je suis allé passer les tests pour le bac, quoi. J'ai passé les tests, tout ça, etc. Et puis je suis tombé sur un prof, c'était un prof qui me connaissait, mais qui, lui, ne pouvait pas me saquer, parce que je parlais de Jésus à tout le monde. Alors ça... Et puis quand il m'a vu arriver, il m'a dit, ah, c'est toi ? J'ai dit, oui, c'est moi. Il m'a dit, bon, ben tiens, vas-y. Hop, il m'a mis dans une pièce, il m'a donné, puis j'ai fait tous les tests. Et puis une fois que j'ai fait tous les tests qu'il a voulu, il m'a dit, ben écoute, je ne peux pas te prendre. J'ai dit, je suis si mauvais que ça ? Il m'a dit, ah non, non, c'est ça le problème. C'est que toi, tu veux un bac, mais bac, tu vas t'ennuyer. Il te faut un bac plus 2. J'ai dit, mais moi, je veux bien, mais c'est eux qui ne veulent pas. Il m'a dit, ben moi je m'occupe de ton affaire et tu vas la voir. Et lui qui ne pouvait pas me voir, lui qui m'en voulait tout le temps parce que je parlais de Jésus à tout le monde, eh bien c'est lui qui m'a fait rentrer. Et je suis rentré. Et puis j'ai passé. Donc on m'a dit, on vous laisse 5 semaines. Si dans les 5 semaines, on voit que vous n'avez pas des bons résultats, on vous enlève. Et dans les 5 premières semaines, eh bien, j'étais dans les 5 premiers. Et ça les a étonnés. Et puis, ils m'ont gardé. Et puis, du coup, j'ai eu un bac plus 2. Dieu m'a fait avoir un bac plus 2. Donc, j'ai eu un bac plus 2 en informatique, option réseau. Et puis, voilà, quoi, je me suis retrouvé comme ça. Et du coup, ça m'a permis d'apprendre qu'est-ce que c'était des fonctions affines, qu'est-ce que c'était des intégrales, qu'est-ce que c'était qu'une dérivée, qu'est-ce que c'était qu'une primitive, etc. Enfin, les choses que j'avais besoin, j'ai appris. Et puis, voilà, quoi, ça a fait comme ça. Entre-temps, le Seigneur m'avait envoyé servir à Sarrebourg. Et puis, à Sarrebourg, ben... C'est pareil, j'ai travaillé dans l'informatique, j'avais travaillé dans l'informatique, même que je n'avais pas de diplôme au départ, je travaillais dans l'informatique. Et puis après, ben, informatique, électronique, voilà quoi, puis électricité, industriel, puis voilà quoi. Et puis après, Dieu a béni, et je me suis retrouvé à Agen, dans le sud-ouest. Où là, ben, quand je suis arrivé à Agen, dans le sud-ouest, donc je suis arrivé au mois d'août, et puis normalement, je ne commençais pas le travail avant le 1er septembre, puisqu'il me devait des jours, mais je savais que la rentrée des, euh, comment, du personnel de l'éducation nationale, enfin pas tous, mais une partie du personnel de l'éducation nationale, c'était à partir du 25 août. Et c'était pas mon jour, quoi, hein. J'avais encore jusqu'à la fin du mois, hein. Mais je me suis dit en mon cœur, je me suis dit, je vais y aller pour donner un bon témoignage, même que je sais que normalement je ne devrais pas y aller. Donc je suis allé, j'ai pris le train, puisque c'était à quelques kilomètres de chez moi, il fallait que je prenne le train. Et puis j'ai pris le train pour y aller. Et quand j'étais dans le train, j'ai rencontré une fille dans le train. Et puis je l'ai vu qu'elle était un peu seule. Bref, enfin, je sentais qu'il fallait que je lui parle. Alors je lui ai témoigné, je lui ai parlé de Jésus. Et puis, en fait, 15 jours après, elle m'a revu à Agen. Et puis, moi, j'étais en train de décharger les bidons de lait pour la maison. Et puis, elle s'est mise à crier, elle est venue, elle m'a appelé, Michel, Michel. Moi, c'est forcément pas moi. Je viens d'arriver. Je connais personne. C'est forcément pas moi. Mais en fait, c'était elle. Et puis, elle nous a présenté sa mère, et puis elle est venue à l'église, elle, son fils, et puis d'ailleurs, elle est toujours à l'église, quoi, depuis, hein. En fait, ça m'a montré que c'était vraiment Dieu qui m'envoyait les gens, c'était pas moi. Bon, il fallait juste que j'ouvre la bouche, mais que c'était Dieu qui les envoyait. Parce qu'elle habitait à 300 mètres, à 300 mètres de chez moi. Donc on a commencé à faire les réunions comme ça. Et puis, Dieu a béni, donc je travaillais donc dans deux lycées et un collège, je faisais l'informatique. Et puis au bout d'un moment donné, eh bien, ma femme, elle me dit, oh, ça serait bien quand même que tu essayes de trouver un travail plus près, quoi. Bon, j'ai dit oui, hein. Bon, j'ai dit on verra, hein. Bon, de toute façon, j'avais pas de boulot plus près. Et puis il y a un collègue de travail, il m'a dit, tiens, il y a un concours pour rentrer à la préfecture à Agen. Oui, mais moi j'avais été en prison déjà. Déjà, j'étais fonctionnaire d'État à l'éducation nationale, c'était déjà un miracle. Oui, mais au ministère de l'Intérieur, c'était pas possible. Moi j'avais fait de la prison, c'était pas possible. Mais bon, j'ai dit après tout, je le fais. Donc j'ai rempli le dossier, j'ai fait ce qu'il y avait à faire pour le concours, je l'ai renvoyé. Et puis le soir même, en fin d'après-midi, on reçoit un coup de téléphone, et puis c'était la préfecture d'Agen qui téléphone, puis elle me dit, bon, on a bien reçu votre dossier, mais il n'est pas complet. Ben, j'ai dit, envoyez-moi-le par la poste, s'il vous plaît, et puis comme ça, je le remplis. Elle m'a dit, ah non, on ne peut pas faire ça, parce que c'est ce soir, à la fermeture de la préfecture, que ça s'arrête. J'ai dit, vous ne pouvez pas m'envoyer le dossier par mail? Alors, ils m'ont envoyé le dossier par mail. Et puis j'ai rempli, je leur ai envoyé en recommandé par accusé de réception, et puis en même temps par mail. Donc ça a été accepté. Je suis allé pour passer le concours. Donc je suis arrivé, on m'a fait m'asseoir. Donc je suis arrivé, on m'a fait m'asseoir, on m'a dit vous attendez votre tour. Donc je me suis assis, j'ai attendu mon tour. On m'a fait patienter une demi-heure au moins. On est venu, pof, on m'a fait monter. Donc, c'était un problème électrique. Enfin, bref, j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé de faire. Et puis, quand je suis sorti de. Enfin, avant de rentrer, on m'avait dit, surtout, ne serrez pas la main au jury. Je suis venu, je suis rentré, je n'ai pas serré la main au jury. Mais à la fin, dans mon cœur, il y avait une petite voix qui me disait, serre la main au jury. Moi. La DRH, elle m'a dit qu'il fallait pas que je le fasse, mais moi, ma petite voix dans mon cœur, elle me dit fais-le. Ah, j'ai dit je le fais. Je suis arrivé, je suis allé vers le jury, je leur ai serré la main à tous, je vous dis je vous remercie, nanana, etc. Et puis, à ce moment-là, il y a un gars du jury qui l'a dit, ah, j'espérais bien que vous alliez le faire au moins. Et puis, donc je me suis dit en mon cœur, je me suis dit, j'ai bien fait de le faire alors, hein. Et puis quand je suis sorti, la DRH, elle m'a dit, alors, comment vous avez senti la chose? J'ai dit, ah mais moi je vous le dis, hein, le poste, il est pour moi. Puis elle m'a dit, vous êtes bien sûr de votre coup? J'ai dit, je suis sûr et certain. Le poste, il est pour moi. Il est à moi, le poste. Elle m'a dit, bon, on verra. Et puis, je crois, 2, 3 jours après, il y a la DRH qui m'a téléphoné, elle m'a dit, Bon, je vous le dis, je ne devrais pas vous le dire normalement. Normalement, je serais obligé d'attendre le résultat du concours, mais moi, je vous le dis. Bon, c'est vous qui avez été pris. Donc, effectivement, je suis rentré à la préfecture. Et là, je suis rentré à la préfecture comme électricien. Bon, j'avais des astreintes, hein, des fois. Mais bon, je faisais la sono aussi du préfet. Enfin, bon, bref, quoi. Je suis rentré à la préfecture comme ça. Et puis, après quelques temps que j'étais à la préfecture, il y a un des gars qui travaillait à la préfecture avec moi. Ils m'ont dit, ouais, mais t'as passé le concours. C'est vrai, mais pour toi, c'était facile. J'ai dit, comment ça, pour moi, c'était facile? Il m'a dit, ben, au concours, il n'y avait que toi. C'était la première fois qu'il y avait un concours où il n'y avait qu'une seule personne. Pourtant, le concours était affiché, mais personne ne s'est présenté. Personne, que moi. Que moi. Ils n'avaient jamais vu ça. Mais après, enfin, les autres années, il y avait toujours plein de monde. Et puis après, les autres années, il y a toujours eu plein de monde. Il n'y a que cette année-là où il n'y avait personne, il n'y avait que moi. Donc je suis arrivé premier et dernier tout à la fois. Mais vous voyez, j'aime le dire parce que Dieu est bon, vous voyez. Mais voilà, le premier concours que j'avais passé aussi, pour vous dire, quand j'avais passé le premier concours, donc quand j'avais fait ma formation à l'AFPA, j'aime le dire parce que, vous savez, il faut des fois montrer comment Dieu est bon, hein. Quand j'ai passé le concours, et enfin quand j'ai passé donc mon examen pour faire électricien d'équipement industriel, eh bien, il m'avait dit, les doigts dans le nez, hein, t'es bon. Et moi je l'ai cru, hein. Ouais. Ah, je suis bon. Et à la vérité, j'ai eu des très bonnes notes, un très bon résultat, hein. Mais vraiment. Très très bien. Et puis après, donc j'ai passé le concours pour rentrer à l'éducation nationale. Et c'était là, j'avais fait un concours comme électricien, quoi. Et puis quand j'ai vu le travail qui était demandé, j'ai dit, franchement, un télérupteur, un va-et-vient, deux coudes, mais un jeu d'enfant, je l'ai fait, tout paf. Ah, je l'ai fait, c'était trop facile. Hein. Ah, vraiment trop facile. Je suis arrivé dernier. Dieu est bon, hein, vous savez, il sait nous montrer que c'est lui qui nous conduit. Alléluia. Et puis, donc, c'est comme ça que je suis rentré donc, à la préfecture à Agen, hein, j'ai travaillé. Et puis, au bout de quelques mois que j'étais à Agen, eh bien, j'avais à cœur de repasser un concours. Et il fallait que je repasse un concours. Je sentais dans mon cœur qu'il fallait que je le fasse. Et puis, alors j'en ai parlé avec mon épouse, et puis bon, on s'est inscrit au concours. Et puis à un moment donné, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, ah tu vois, en fait je me suis inscrit, mais bon, en fait c'est tous des jeunes quoi, je ne vais jamais faire le poids. C'est tous des jeunes, j'y arriverai jamais quoi, eux ils sortent d'école, je sais comment c'est, faut avoir les trucs dans la tête tout de suite, moi, c'est juste de la pratique, je suis pas terrible, quoi. Puis ma femme, elle m'a dit, bah, fais-le quand même. De toute façon, si tu le rates, tu n'as rien perdu. Moi, j'ai dit, ah, d'accord, je l'ai fait. Donc, j'ai fait le concours. Et ma chef, elle m'a dit, avant le concours, elle m'a crié dessus. Puis je lui ai dit, mais Sylvie, pourquoi tu me cries dessus? Puis elle m'a dit, oui, parce que je sais que tu vas passer le concours et que tu vas le réussir. Moi, j'étais convaincu que j'étais trop nul pour y arriver parce que c'était un niveau trop élevé pour moi. Et puis, elle était convaincue pour moi que j'allais l'avoir. Donc, j'y suis allé, quoi. Et puis, j'ai passé le concours. J'ai été admissible. Et quand j'ai été admissible, avant même d'avoir le résultat, j'ai eu le directeur, un des directeurs à la préfecture qui est venu me voir. Et puis, il m'a dit, félicitations, mais j'étais sûr que vous alliez l'avoir. Alors, tout le monde était sûr qu'ils allaient l'avoir. Alors que moi, j'étais sûr de rien du tout, quoi. Et puis, après, j'ai eu la deuxième, donc on était admissible, et puis après, j'ai eu la deuxième partie, c'est l'oral. Donc, enfin, c'est l'oral, mais il y a une partie écrite, mais ils appellent ça oral, quoi. Il y a une partie écrite, puis une partie orale, quoi. Et puis, vous avez un jury qui est là devant vous, j'avais six personnes devant moi, puis qui m'interrogeaient, tout ça. Et puis Dieu a permis que je réussisse. Alors je me suis dit, bon, si je réussis, je serai le dernier. Et puis je suis arrivé 14e national. Alors là, ça m'avait bluffé, hein, parce que je ne m'attendais vraiment pas à ça. Hein. Et puis donc, c'est comme ça que je suis rentré dans la police. Et puis là, je travaillais dans la police. J'avais des policiers, donc j'étais à Marseille. Donc je travaillais la semaine à Marseille et je rentrais le week-end à Agen. Et puis j'avais des policiers sous mes ordres. Puis après, je suis allé à Bordeaux. C'était pareil, j'avais le même poste. Hein, J'étais adjoint au chef. Et puis vraiment, et moi, je leur ai toujours témoigné. Je leur ai dit qu'avant j'étais un ancien drogué, que je leur ai dit que j'avais fait des sales coups, tout ça, etc. Et ils me disaient, je ne comprends pas comment tu as fait pour rentrer chez nous. Ben, je disais, c'est Jésus. Alors eux, ils n'arrivaient pas à comprendre que Jésus, il avait fait des miracles pour moi. Ils n'arrivaient pas à comprendre ça, mais ils m'écoutaient, parce que ça les troublait de voir ça. Et surtout, en plus, que Dieu a permis que j'étais, non seulement je travaillais dans la police, non seulement j'étais adjoint au chef, mais en plus, j'étais secret défense. Donc, alors qu'il y a beaucoup de policiers, ils ne sont même pas secret défense. Et moi, j'étais secret défense. Et ils me disaient, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et un jour, je suis même allé voir, les commissaires. Un jour même, je suis allé taper à la porte du commissaire. Et puis, j'ai dit, excusez-moi, monsieur le commissaire, est-ce que vous avez quelques minutes à m'accorder? Il m'a dit, pas de problème. Je rentre dans le bureau. Et puis, je lui dis, c'est pas pour le travail. C'est juste personnel. Est-ce que vous avez du temps? Il m'a dit, allez-y, dites voir. Puis, j'ai dit, excusez-moi, mais vous qui êtes un haut fonctionnaire, quel est le sens de la vie pour vous? Puis il me dit, c'est vrai que c'est peu commun comme question. Et puis il commence à me parler un petit peu du plaisir de la vie, tout ça. Je dis, excusez-moi, je pense que je me suis mal exprimé. Si vous mourrez, où est-ce que vous allez là à l'instant? Il m'a dit, fermez la porte s'il vous plaît. Donc j'ai fermé la porte. Et puis, normalement, on devait discuter un quart d'heure. Plus d'une heure et demie après, on en était encore là. Et c'est moi qui ai dû lui dire, écoutez, là, il est midi passé, la cantine va fermer. Si vous voulez manger, il faut y aller maintenant. Et il m'a dit, ah, vous avez raison, on va remettre ça. Et je leur ai parlé, quoi. Je leur ai donné mon témoignage. Et aujourd'hui, j'ai encore plein de numéros de policiers qui me téléphonent, qui m'envoie des SMS, j'ai de bons contacts. Et Dieu bénit. Et je vois que Dieu, il a permis des choses quand même extraordinaires, parce que j'aurais jamais pu m'imaginer des choses comme ça. Et puis j'ai continué, comme on dit, hein, mon petit brin de vie, mais avec le Seigneur cette fois-ci. Donc j'ai fait beaucoup d'expériences. Donc je vous ai parlé des expériences comme ça. Mais j'aimerais revenir quand on s'est marié, quand mon épouse et moi on s'est marié. Donc on a fait des expériences, par exemple, quand ma deuxième fille, elle est née, Émilie, quand elle est née avec un pied beau. Et on était à l'hôpital, quoi, la mère et l'enfant. On était à l'hôpital. Et puis les médecins donc qui étaient là, ils nous ont dit ben voilà, votre fille, elle est née avec un pied beau. Et mon épouse et moi, à ce moment-là, on s'est mis à prier. On s'en moquait de ce que les gens pouvaient penser de nous. Mais mon épouse et moi, on a prié à voix haute. On n'a pas hurlé, hein, mais on a prié à voix haute. Ça s'entendait. C'était audible. Puis on a dit, Seigneur Jésus, guéris l'enfant. Et le lendemain, quand le pédiatre il est venu, il a dit, mais elle n'a rien, la gosse. Elle n'a pas de pied beau. Alors que la veille, ils avaient dit qu'elle avait un pied beau. Mais ça les a tellement choqués qu'ils ont dit, il faut quand même qu'on fasse des radios, vous savez, des échographies. Donc ils ont fait des échographies de l'enfant. Et puis ils ont dit, c'est vrai, elle n'a pas de pied beau, mais elle a une déformation du bassin. Il faudrait lui mettre un harnais de Pavlik. Alors on a dit, bon, d'accord, hein, nous, il n'y a pas de problème, hein, c'est notre enfant, on l'aime, hein, autant faire ce qu'il y a à faire. Ils nous ont dit, ben écoutez, revenez dans 15 jours, et puis à ce moment-là, on fera. Donc, on est parti, mon épouse et moi, avec l'enfant, et puis quand 15 jours après, on est revenu, ils ont ausculté l'enfant pour savoir exactement comment il devait faire. Ils ont discuté entre eux, et puis ils nous ont dit, ben écoutez, il faudra revenir. Alors, on est revenu. Et puis, la troisième fois qu'ils nous ont fait revenir, ils nous ont dit, excusez-nous, mais vous venez à cause de quoi ? Je leur dis, mais c'est vous qui nous avez dit que la gosse, elle a un pied, elle a besoin de mettre un harnais de Pavlik. Elle dit, mais elle n'a rien, la gosse, il n'y a pas besoin de harnais de Pavlik. Alors, on a remercié le Seigneur. On a remercié le Seigneur. On a fait d'autres expériences. On a fait des expériences quand on était par exemple à Sarrebourg, et puis j'avais besoin d'un endroit pour annoncer l'Évangile, et je travaillais pas. Hein, c'est quand je suis arrivé, je travaillais pas du tout, j'avais pas de travail. Et puis j'ai vu une maison, j'avais demandé l'avis, on m'a dit oh, ben ouais, elle irait bien, tout. Donc j'ai dit je vais prendre la maison. Et la maison à l'époque, donc c'était en 94. 1er janvier 1994, la maison, elle faisait 4 800 francs par mois. Et le SMIC, il était aux alentours des 5 000 francs, quoi. Et parce que je ne me souviens plus exactement du SMIC, combien il était. Et puis, nous, on a pris la maison, 4 800 francs par mois. J'ai vu la propriétaire, je lui ai dit, je suis intéressé par la maison. Elle m'a dit, bon, bah, d'accord. Elle m'a dit, bon, bah, vous faites quoi comme travail ? J'ai dit, je ne travaille pas, mais je suis chrétien. Et chaque mois, vous serez payé en date et en heure. Elle m'a regardé, puis elle m'a dit, je vous fais confiance. Et Dieu, il a toujours béni, parce que je ne travaillais pas toujours. Mais toujours Dieu, il me trouvait un travail, il me trouvait une solution. Tout le temps, j'avais l'argent qu'il fallait pour payer en date et en heure. On n'a jamais payé en retard, jamais, même pas une seule fois. Jamais payé en retard. Et tout le temps, Dieu, il a béni. On a fait beaucoup d'expériences avec l'argent parce que des fois, on était très, très, très étonnés de voir comment Dieu y faisait. Je me souviens, même un jour, on avait eu des frères qui étaient venus me donner un coup de main pour déménager un grenier d'une dame qui venait même pas à l'église. Hein. Mais bon, par toutes sortes de circonstances avec la mairie, on s'est retrouvés à faire le déménagement de son grenier à cette dame. Et puis, bon, on est allé le faire. Et puis, j'avais dit à ma femme, j'avais dit, bah, prends la voiture et puis monte à la réunion à Metz. Et puis, je monterai avec les frères. Et puis, on avait mis l'argent qui nous restait, on l'avait mis dans la voiture pour aller faire la réunion. Et on n'avait pas plus d'argent, quoi. Et j'avais dit, Seigneur, tu vois, ils m'ont aidé, mes frères. Ils ont aidé et j'ai même pas de quoi leur donner quelque chose. Même à la maison, j'ai rien à leur donner. Et mais je n'avais pas dit, hein, j'avais dit qu'au Seigneur. Et quand je suis arrivé devant chez moi, donc on est rentré dans la petite cour, et dans la petite cour, sur le bord de la fenêtre, il y avait une grande boîte de gâteaux comme ça. Et il fallait forcément que ce soit quelqu'un qui vienne, et qui vienne le poser sur la fenêtre, parce qu'il fallait ouvrir la petite grille, c'était pas par hasard, hein, c'était vraiment du volontaire, quoi. Et puis la boîte de gâteaux était là, on a ouvert, et chacun a eu deux gâteaux. Et chacun a eu le gâteau qu'il voulait. Chacun a eu deux gâteaux, mais le gâteau qu'il voulait. Et puis, en mon cœur, je me suis dit, ah bah tiens, ça doit être la Maria, parce que je connaissais une femme qui venait de temps en temps à l'église. Et puis, de temps en temps, elle venait taper à notre porte, elle disait, parce qu'elle travaillait dans une boulangerie-pâtisserie, elle disait, ce soir, j'ai eu des pains, si ça vous intéresse, moi, je vous en donne un. Puis nous, ben, on acceptait de prendre le pain qu'elle nous donnait. Et puis, je me suis dit, ah ben, c'est Maria, elle a pensé à nous, elle nous a mis des gâteaux, ben, merci Seigneur, ça tombe bien, quoi. Et quelques jours après, je la vois, je dis, Maria, merci pour les gâteaux. Elle me dit, comment ? Je dis, merci pour les gâteaux. Elle me dit, mais quel gâteau ? Ben, je dis, vous savez les gâteaux que vous avez mis sur le bord de la fenêtre ? Mais je n'ai pas mis de gâteau sur le bord de la fenêtre. Mais si, vous savez, tel jour. Non, je n'ai jamais mis de gâteau sur le bord. Mais Maria, mais je vous dis, je n'ai jamais mis de gâteau sur le bord de la fenêtre. On n'a jamais su. Et aujourd'hui, je ne sais toujours pas qui c'est. Je sais que c'est le Seigneur, mais qui il a utilisé, je ne sais pas. Mais le Seigneur a permis. Et beaucoup d'expériences comme ça, on a fait. Hein. Vraiment, Dieu a béni. Hein. On a toujours vu. Hein. Et puis, on a fait toutes sortes d'expériences, des expériences pour la voiture. Ben, par exemple, À un moment donné, j'avais ma voiture, ben, la voiture que j'ai là. Bon, là, on est à pied depuis la maison, mais la voiture que j'ai là, eh bien, on a eu un problème de fuite. Mais quand j'ai un problème de fuite, c'est une fuite. Hein. Ça coulait abondamment. Ça coulait abondamment. Et puis, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, comment faire? Alors, il y a eu des frères à Agen qui ont voulu m'aider, mais c'était impossible. C'était impossible. C'était carrément le truc à gasoil, où le gasoil arrive dedans, après il est redistribué. Je sais plus comment ça s'appelle. La pompe à injection. La pompe à injection qui fuyait de partout. C'était impossible, quoi. C'était impossible. Et puis, Dieu m'a béni. Enfin, Dieu nous a béni, quoi. Dieu nous a béni. Eh bien, l'église de Châlons nous a invités à ramener la voiture ici et puis qu'ils allaient nous aider à faire les travaux, quoi. Et vraiment, je remercie, hein, je remercie beaucoup le Seigneur et je remercie l'église d'avoir eu à cœur de nous faire du bien, quoi. C'est vrai. Mais tout le temps, on a toujours eu le Seigneur qui nous a aidés dans tous nos besoins. Dans tous nos besoins. Et c'est pour ça que, vous voyez, ce soir, hein, c'est pour ça que ce soir, je voudrais que vous compreniez que on peut tout demander au Seigneur. Mais vraiment, on peut tout lui demander au Seigneur. Moi, vous voyez, je vais vous donner encore une expérience, parce que je pense que celle-là, merci Seigneur, il me la remet dans le cœur, donc je pense qu'elle est très importante. C'était un jour où j'étais véritablement découragé. Mais il y a très longtemps, hein, j'étais encore à Besançon à l'époque. J'étais vraiment découragé. Mais découragé de chez découragé. Et puis, j'avais compris bien des choses de l'Évangile, mais il y avait des choses, je n'étais pas au clair. Et comme le découragement était tellement grand, alors j'étais allé sur la montagne, comme je faisais. Hein, moi, je faisais comme ça, je montais sur la montagne. Et puis, j'allais voir le Seigneur, et puis je lui disais comme ça, je lui disais, écoute Seigneur, je viens te voir, mais je n'ai pas envie de te parler. Alors, je restais sur la montagne, une demi-heure, trois quarts d'heure, je ne sais pas. Et puis, quand j'avais fini, c'est-à-dire que j'estimais qu'il fallait que je m'en aille, je disais, Seigneur, je m'en vais. Et puis, je partais. Et le lendemain, je remontais sur la montagne, puis je disais, Seigneur, je suis venu, mais je ne veux pas te parler. Et puis, les jours passaient, et puis c'était toujours la même rengaine. Mais j'étais droit. Sûrement tordu, mais j'étais droit quand même, parce que je savais qu'il m'écoutait, et qu'il savait pourquoi je faisais ça. Et en fait, ce que j'arrivais pas à comprendre, je disais, ok, t'es Dieu, t'as tous les pouvoirs. Et puis, tu dis que tu m'as fait libre, mais j'arrive pas à le croire. J'arrive pas à croire que tu m'as fait libre. Pourquoi? Parce que tu dis que si je marche pas dans tes voies, je vais aller souffrir pendant l'éternité en enfer. Donc, je suis pas libre. C'est, j'ai pas le choix, je suis obligé d'obéir, parce que si j'obéis pas, c'est l'enfer. Eh bien, ça pour moi, ça me va pas, Seigneur. Et voyez, Dieu, il a parlé à mon cœur. Il m'a parlé au rythme auquel j'étais prêt à accepter. Et quand il m'a parlé, il m'a dit, qu'est-ce qui ne va pas? Ben, j'ai dit, écoute, tu as fait des lois et moi, je suis pas d'accord avec elles. Puis après, il m'a dit, bon, d'accord, tu n'es pas d'accord avec mes lois. Eh bien, regarde mes lois et dis-moi en quoi tu n'es pas d'accord. Alors, c'est ce que j'ai fait. J'ai regardé la loi du Seigneur et je l'ai bien scrutée. Et puis, une fois que je l'ai bien scrutée, j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Parce qu'à ce moment-là, j'ai vu que si jamais je vivais selon les lois de Dieu, si le monde vivait selon les lois de Dieu, je ne pourrais que être heureux. Pas de mensonges, pas de vol, pas toutes ces choses qui sont des péchés. Ça veut dire que si jamais le monde était comme ça, mais je serais heureux. Mais qu'à partir du moment où j'acceptais que un péché, ben mon cœur ne pouvait pas être heureux. Si j'accepte le mensonge, ben ça voudrait dire que je veux vivre dans un monde où il y a le mensonge, donc je ne pourrais plus avoir confiance aux gens, les gens ne pourraient pas avoir confiance en moi. En fait, c'est le monde dans lequel je vis. Un monde où on n'arrive pas à avoir le bonheur. On arrive à avoir des plaisirs, mais on n'arrive pas à avoir le bonheur. Et seulement avec le Seigneur, j'arrive à les trouver. Autrement, je ne peux pas. Et quand il a fait ça dans mon cœur, quand il m'a dit ça, à ce moment-là, j'ai commencé à regarder la vie autrement. J'ai dit, Seigneur, je te remercie. Je ne vous le cache pas que j'ai eu des attaques. Le diable qui m'a dit, oh, parce que vous savez, le diable nous parle. Le diable qui m'a dit, oui, mais peut-être que, tu sais, il est tout puissant, Dieu. Peut-être que, au bout du compte, en plusieurs fois, il a fait la chose. C'est pour ça que t'es trompé. Et puis, j'ai réfléchi. Puis, j'ai dit, et même s'il l'a fait en plusieurs fois, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Et ça a balayé tous mes doutes de mon cœur. Et à ce moment-là, ben, j'ai commencé à avoir une autre vision du monde, une autre vision, parce que je regardais. Et puis, la peur de l'enfer a été balayée, parce que j'avais plus peur d'aller en enfer. Parce que je savais que, bien sûr que je suis un pécheur, c'est vrai. Mais le Seigneur, il me disait, moi, je t'ai aimé quand tu étais un ennemi. Est-ce que tu arrives à croire ça? Et au début, c'est difficile. Parce que je me disais dans mon cœur, oui, mais, ok, d'accord, tu m'as aimé quand j'étais un ennemi. Mais regarde combien de fois encore je pêche. Alors, tu vois. Puis il me disait, alors, je t'aurais aimé avant et je t'aimerais plus maintenant. Maintenant que tu veux marcher. Maintenant que tu veux aller avec moi. Je t'aimerais plus. Parce que tu tombes. Mais est-ce que je t'ai pas promis que je t'aiderais à marcher? Et vous voyez ça. Ça a fait du bien à mon cœur parce que j'ai été honnête avec lui, parce que j'ai pris du temps. Je me suis isolé avec lui, parce qu'il fallait que j'aie une vraie vie avec lui. Et c'est pour ça que ce soir, j'ai envie que vous ayez une vraie vie avec lui. Je n'ai pas envie que vous ayez une religion. Parce que vous savez, il y a des belles religions, hein, même évangéliques, évangéliques de Pentecôte. Voyez, j'ai vraiment envie que par mon témoignage, vous compreniez que l'amour de Dieu est tellement grand qu'il va vous sortir de tous vos problèmes. Moi, vous savez, je suis serviteur de Dieu. Merci Seigneur, c'est une grâce. Ce n'est pas parce que je le mérite. C'est vraiment une grâce. Mais je suis serviteur de Dieu et pourtant je pêche encore. Je sais que c'est honteux. Mais vous savez, je vous dis la vérité, c'est pour que vous soyez consolés, pour que vous compreniez bien que c'est vrai. Et parce que je pêche, eh ben je peux crier à Dieu. Je lui dis, Seigneur, au secours, regarde, je tombe dans un travers. Ça, je peux le faire. Puis Dieu, il dit, ah, puisque tu invoques mon secours, puisque tu demandes que je t'aide, eh ben je vais le faire. Et puis, à ce moment-là, on dit, c'est merveilleux. Voilà le péché dans lequel je tombais sans arrêt. Maintenant, Dieu me garde. C'est pas qu'il ne voulait pas me garder avant. C'est que je n'étais pas prêt à être délivré. Mais à partir du moment où je me suis mis à crier à lui, et voyez, c'est toutes ces petites choses-là, mises bout à bout. Parce que c'est, je vous ai donné, vous savez, des expériences de toutes sortes. Vous voyez, par exemple, nous, à Agen, on a cette habitude que tous les dimanches, on se réunit, oui, on se réunit pour donner chacun notre expérience de la semaine. Et c'est ce qu'on fait. Et quand on donne notre expérience de la semaine, ben ça oblige les gens à chercher à faire des expériences avec Jésus. Et ce soir, ben c'est ce que je voudrais que vous fassiez. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen.